on Spore? What's on Spore? What's on Spore?
Et bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2.
Bonsoir Sylvain.
C'est les bébés dinosaures, tu m'as l'air bien calme ce soir, qu'est-ce que
on
ça
avait
cache ça.
Pas de xylophone dans les studios.
Je fais référence au petit morceau des Pink Fairies qu'on s'écoutait juste avant le début officiel de l'émission. Les Pink Fairies live en 70, il faudra qu'on se le réécoute en entier un jour, tiens pas plus tard que la semaine prochaine, on se le mettra. The Snake. Xylophone et tambour.
Le serpent qui veut rentrer, mais où? La question reste ouverte.
Et ben voilà.
C'est Bébé Dinosaur. Vous avez compris, vous êtes plongé en plein dedans. C'est tous les dimanches sur Canal Sud à 21h30. Et ça va durer 90 minutes.
Si tout va bien.
De blabla. Oui. Et de rock abominable des années 70.
Bon, quelques merveilles.
Oui,
par
allez,
hasard,
attends,
comme ça en passant.
C'est respectable, on va commencer respectable avec un type qui est maintenant considéré presque comme une sorte de parrain intellectuel de New York. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, on voit.
Bon,
c'est sur la clé USB.
Eh ben, il y a une version flamboyante.
Voilà, de White Light, White Heat, un vieux morceau du Velvet Underground. Et c'était Lou Reed, en solo en 1973, enregistré en public à Birmingham, je crois.
Ah, il est des fines lames là, avec lui. Hein.
Voilà, avec son groupe, enfin le même groupe qui a enregistré l'album en public Rock and Roll Animal, qui est bien sûr un classique imparable. Donc c'est Dick Wagner et Steve Hunter à la guitare. Les mêmes qui ont fait les mercenaires pour Alice Cooper.
Et même la rythmique. Et la rythmique. Brad Cash Jones, voilà, et Pentiglan.
Qui ont aussi travaillé sur l'album Welcome to My Nightmare.
Dis donc, tu sais que l'Intello de New York, là, il vient de faire un album avec Metallica.
Ouais, t'as déjà entré bien qu'il faut
double album, je crois bien.
Un double album.
Il paraît que c'est. Enfin, il paraît. Certains sont totalement enthousiastes, d'autres sont épouvantés. Mm-hmm. Il paraît que c'est abominable quand même. Hein. Oui, t'as des morceaux de 12 minutes, bruitistes à mort.
Tu sais, à propos de Metallica, il avait fait les années 70 le fameux Metal Machine Music,
qui
était un truc absolument inécoutable, je crois.
Ouais, je crois qu'il est revenu à ce genre de choses.
C'était un double album où, que j'ai jamais écouté, mais enfin, qui était que du bruit électronique ou des choses comme ça.
Voilà, enfin, ouais, je n'ai jamais écouté non plus, à vrai dire. Ah, voilà, quelque chose qui nous manque. Hein.
Eh, celui-là, il n'a pas dû être réédité et je pense qu'il doit même être dur à trouver sur Internet.
Bon, on cherchera pas trop, hein.
Ouais.
Bon, un personnage pas très sympathique, quand même, hein, Lou Reed, faut bien l'avouer, même s'il a fait la bonne musique.
Ça, je crois qu'il y a toujours une très haute opinion de lui-même, voilà, par exemple.
Ouais. Très méprisant vis-à-vis de son public. Pourtant, il y a des fans, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Il reste quand même quelques grands morceaux, il faut l'avouer aussi. Et bon, on va continuer dans le musclé, avec Grand Funk Railroad, un des premiers albums, ça va être le deuxième, le rouge. Ouais.
Qui s'appelle Grand Funk tout court.
Voilà. Écoute, je me souviens d'avoir écouté avec Kiki Tourmix. Tu te rappelles de Kiki Tourmix? Un soir où il était venu à la maison. Il est tombé sur ce disque. Il a dit oh là, génial, faut qu'on se le mette et tout. Il a posé sur la platine. Il a foutu les potards à 11. Et les murs ont vibré sur tous les face A, face B. On l'écoute en entier. Les murs ont vibré pendant 35 minutes ou 40 minutes sur cet album de Grand Funk. C'était. Une expérience mémorable. On est un peu torché, tu vois. Alors, je suis quand même sorti au bout d'un moment, parce que je me suis dit, mais est-ce que les volets sont en train de claquer? Est-ce que les murs se fissurent?
Est-ce que les voisins ont appelé la police?
Non, mais tout calfeutré et tout, on n'entendait pas trop, on entendait un vague bruit de fond. Mais alors, à l'intérieur de la pièce, je te dis pas, c'était monstrueux. Et effectivement, je vous conseille d'écouter cet album à 11, en fermant bien les fenêtres, parce que c'est quelque chose. Grand Funk, donc, à leur début, le morceau qui ouvre l'album, hein, God They Sing on the Move.
Yeah.
Got This Thing on the Move, c'était Grand Funk Railroad, l'album Grand Funk, produit par Terry Knight, leur producteur des débuts. Dans ce disque, là, j'ai glissé un petit courrier que nous avons envoyé Gilda en 2004, qui annonçait la mort de Terry Knight. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait été assassiné, poignardé dans sa piole.
J'avais oublié ça.
Il y avait une interview des membres du groupe qui disaient « Oh, bah, ça fait 30 ans qu'on l'a pas vu, 30 ans qu'on est fâché, mais bon, évidemment, il a donné leurs condoléances à la famille. » Ils ont collaboré avec Terry Knight très longtemps, en fait, puisqu'il faisait partie dans les 60s du groupe Terry Knight and the je sais pas quoi. Et puis il est devenu producteur, finalement, il a arrêté de jouer. Et c'est lui qui en a fait des stars, hein, finalement. Et ils se sont fâchés en 72.
Bah, peut-être qu'il avait tendance à garder tout le fric, non?
Alors, j'imagine que c'est ce que les musiciens lui reprochaient. Puis lui, il lui dit ouais, mais c'est branleur, c'est moi qui ai tout fait. C'est quelque chose comme ça. Ils se sont fâchés pendant 30 ans. Mais bon, faut avouer quand même que musicalement, après le départ de Terry Knight, ça a plus été pareil quand même, Grand Funk. Hein. C'était moins musclé, c'était moins. Ils ont continué à vendre beaucoup de disques, à avoir des succès, mais bon, c'était quand même moins
produire bien. Pas de Rundgren.
Ouais, voilà, alors là, évidemment, Terry Knight, il leur avait donné un son assez brut de décoffrage qui leur convenait très bien, je trouve. C'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là qu'ils ont mis un organiste, non? Ou peu de temps après, 72, 73. Ah, là,
sur l'album Phoenix, je crois que ça a commencé. Jack Frost.
C'était le début de la fin, ça. Voilà, pour l'anecdote, donc... En tout cas, on vous conseille les premiers albums de Grand Funk, même si c'est un groupe quand même relativement méprisé encore aujourd'hui. Ils ont quand même réussi à battre un record détenu par les Beatles. C'est eux qui ont vendu le plus vite les billets pour le Shea Stadium, plus vite que les Beatles. Sold out en, je sais pas, en quelques heures. Quelques minutes de moins que les Beatles. C'est pas rien. Ouais. Les Beatles, nous en reparlerons tout à l'heure, puisque l'album blanc est notre album classique du moment.
Voilà, non mais ça c'est sûr qu'en 1970, Grand Funk régnait sur les ventes de disques aux États-Unis. Bon, ok. ouais, c'est sympathique Grand Funk, mais disons que
c'était pas forcément.
Il y avait quand même beaucoup d'autres groupes qui faisaient la même chose.
Musicalement, c'était pas forcément particulièrement original ou particulièrement inspiré, mais en tout cas, au niveau du son, au niveau de la pêche, de l'énergie, c'était quand même des phénomènes, moi je trouve.
Eh bien, écoute, on va s'écouter Alice Cooper avec son album de 2011, tout récent, Welcome to My Nightmare.
T'as vu qu'on a un auditeur qui a assisté au concert d'Alice Cooper au Zénith.
Oui, qui nous a écrit qu'on était la meilleure émission qu'il connaissait.
Bon, faut dire que c'est notre Jeff de
Canal
Sud.
C'est un copain toi, c'est ça. Ouais.
C'est Jeff, c'est un des boss de Canal Sud. Là,
ah, c'est le Jeff de...
Qui est un grand fan de Rock 70s.
C'est le Jeff de Canal Sud.
Grand connaisseur, donc évidemment, son avis nous va droit au cœur. Mais cela dit, apparemment, le concert d'Alice Cooper, c'était pas mal du tout. Hein.
Oui, il y avait une description tout à fait intéressante. Il y avait du spectacle, tu vois.
Le plus marrant, c'était cette histoire là de fans qui montent sur scène, tu sais, pour prendre Alice Cooper en photo, puis qui se fait virer par le service d'ordre, et puis qui remonte sur scène un petit peu après, qui se fait bousculer par Alice Cooper en personne, et puis qui remonte une troisième fois sur scène, et là Alice Cooper il sort une épée, je crois, et schlac, il le trucide à coup d'épée, espérant que c'était un trucage, hein. Que ça faisait partie du spectacle.
Un comparse de plus.
Donc ça a l'air très drôle, plein d'humour, parce que bon, quand même, ces spectacles, c'est toujours assez marrant.
Donc, c'était Alice Cooper en version guillotine, là, hein, d'après ce qu'il nous a dit. Hein, voilà. Parce que Alice Cooper, c'était soit la chaise électrique, soit la pendaison, soit la guillotine, selon les concerts.
Voilà. Donc là, il est revenu à la guillotine, qui demande un petit peu plus d'effets spéciaux, quand même, évidemment. Et ça, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on s'écoutera I Love the Dead d'Alice Cooper.
Mais en attendant, on va s'écouter Alice Cooper, donc dans son dernier album, qui était un retour sur Welcome to My Nightmare, l'album qu'il avait fait justement avec les musiciens de Lou Reed, qu'on a écouté tout à l'heure en public avec Lou Reed en 73. Et donc cet album est un clin d'œil, c'est thématiquement et par le son, ça renvoie à l'album précédent, et par les musiciens aussi, puisque Steve Hunter joue sur tous les morceaux, et Dick Wagner sur un ou deux morceaux, et sur celui-ci en particulier, qui est un instrumental qui s'appelle The Underture, donc comme dans Tommy, tu sais, un jeu de mots avec Overture, Underture, et qui va sûrement te rappeler beaucoup de choses. We'll be right back.
dis donc, il se fait un gros coup de nostalgie, l'ami Alice Cooper. Là.
Et voilà, oui, c'est une sorte de résumé en 4 minutes de l'album d'origine de Welcome to a Nightmare de 75. Avec, bon, il n'y a pas tous les thèmes, tous les morceaux de l'album d'origine, mais il y a bien une bonne moitié qui sont rapidement repris et enchaînés.
Eh ben écoute, on va continuer avec Alice Cooper, revenir un tout petit peu avant Welcome to My Nightmare. À l'époque, c'était encore Alice Cooper, le groupe. L'album Billion Dollar Babies, où déjà Dick Wagner apparaissait, il était déjà crédité, il jouait
Steve
déjà.
Steve Hunter aussi.
Steve Hunter aussi, et Mick Mashbear aussi. Ouais. Des musiciens qui étaient utilisés aussi sur scène à cette époque-là.
Mashbear en tout cas. Mashbear
caché derrière les rideaux.
Glenn Buxton, on le voyait sur scène, mais il était incapable de jouer sa guitare, et puis caché derrière.
Ah, les malins.
Il y avait Mick Mashbear qui jouait la vraie partie de guitare.
C'était un peu pour pallier aux déficiences dû à un alcoolisme et des abus de drogue diverses de Glenn Buxton, le guitariste d'origine d'Alice Cooper. Donc déjà, il avait fait venir Dick Wagner, il le retrouvera plus tard dans sa carrière solo. Et sur l'album Billion Dollar Babies, il est crédité, donc c'est qu'il a joué en studio aussi. Et la semaine dernière, je crois, on s'écoutait I Love the Dead, mais version live, version sur le live officiel d'Alice Cooper,
de 78, ouais.
Qui est une version raccourcie. Et donc on va s'écouter la version studio quand même, j'ai bien senti que tu étais frustré la semaine dernière. Donc la version d'origine de I Love the Dead, le morceau sur lequel, à la fin duquel, il finissait exécuté d'une manière ou d'une autre. Donc il est revenu à la guillotine, nous racontait Jeff. Et avec effets spéciaux, et quelqu'un qui brandit la tête d'Alice Cooper, etc. Quoi. Le grand guignol est toujours là dans les shows d'Alice Cooper. Un des rares morceaux, je pense, de l'histoire du rock, à être consacré à la nécrophilie. J'en connais pas des masses. On n'en connaît pas d'autres, à vrai dire. Et en plus, un morceau magnifique. Le final, notamment. Et à tirer les larmes. Alors que le thème est plutôt abominable. Et surtout, c'est très premier degré. Hein. C'est pas des allusions. C'est des allusions, mais extrêmement directes, on va dire.
j'aime bien étreindre leur chair qui se pourrit.
Ouais, voilà,
enfin,
là.
Bref.
T'embrasser avant que tu deviennes bleu, ou je sais pas quoi. Enfin, bref. On s'écoute ce magnifique morceau d'Alice Cooper en 73, I Love the Dead.
I love the dead before they're cool. The bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. Dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Oh,
Fallait oser, oui, oui. 73, I Love the Dead, Alice Cooper. Les chœurs sont incroyables. T'écoutes ça au casque, ça fait longtemps que j'ai pas écouté au casque, ça, tu vois. Les chœurs sont totalement incroyables. T'as des trucs quasiment doo-wop par moment. The Dead, The Dead, The Dead, The Dead. C'était les Barjots, quand même. Bob Ezrin et la production, comme sur le dernier album.
Eh oui. Faut le dire. Bon, bah écoute, on va faire dans le plus. Dans le plus rude, là, dans, ah, dans oui, le plus oui, simple, oui. Dans le plus ah, direct, ouais. Dans le plus viril, à vrai dire.
Oui, curieusement.
Avec Suzy Quattro. Après tout, elle avait repris I Wanna Be Your Man sur son premier album.
Hein. Eh oui, bah, elle est tenue en cuir moulante, provocante, mais c'est vrai qu'elle a une voix assez grave. Et,
plus, voilà, c'était essentiellement une fan d'Elvis Presley.
Oui, oui.
Bon,
fan de moto.
On va s'écouter. Et on va s'écouter. Alors,
Glycerine Queen, je crois.
Glycerine Queen, alors enregistré dans un concert live en studio destiné à la radio, enregistré en 75, à l'époque de son album de funk, là, enfin de soul, de funk, qui s'appelait Your Mama Won't Like Me. Et qui n'a pas été une grande réussite, à mon avis, mais enfin bon. Et on va pas s'écouter un des morceaux de cet album, on le fera peut-être un peu plus tard. On va s'écouter donc Glycerine Queen, qui était un des morceaux de son premier album. Un des morceaux écrit par elle et son groupe, hein, je précise, il me semble, hein, et pas fait pour elle par Chapman et Chin, ses producteurs.
Suzy Quattro, donc.
This is the tune off the. Oh shit, which album is it off of? First album. It's called the Glycerine Queen.
Don't it.
Glycer in Queen, donc version live par Suzy Quattro. Bonne version.
Ouais, tout à fait. Du coup, d'ailleurs, on entend moins la parenté avec Get It On.
Oui,
de temps en temps, quand même, ressort.
Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parfois efficace, quand même. Et bon, on va en arriver à notre album classique du moment. Là, on en a pour quelques semaines, puisque c'est le double album blanc des Beatles. Le White Album, sorti non pas en 69, comme j'ai dit la semaine dernière, mais fin 68. Mm-hmm. Décembre 68, semble-t-il. Et on arrive au deuxième morceau, Dear Prudence. Tu sais que les deux premiers, Back in USSR, qu'on écoutait la semaine dernière, et Dear Prudence, il n'y a pas Ringo Starr. Car Ringo Starr s'était barré pendant les enregistrements. Pendant deux semaines, il a quitté le groupe. Fâché, ras-le-bol, vous faites chier, vous ne me prenez pas assez en compte, mon opinion. Alors ils l'ont supplié de revenir, et puis il est revenu au bout de 15 jours, et puis il a repris les enregistrements, qui sont étalés quand même sur plusieurs mois, dans une certaine confusion, semble-t-il. C'est un peu le début du bordel dans les Beatles. Certains disent, ouais, c'est Lennon, il a commencé à amener Yoko Ono, c'est sûr, alors ça foutait le bordel. Mais en fait, McCartney, il a mis sa copine aussi, les autres aussi, j'imagine, donc... C'est surtout que, bon, bah, je sais pas, il revenait de chez le Maharishi machin, là. Et disons que des tensions commençaient à naître. Alors, c'est peut-être pour ça que ce disque est très bordélique, éclectique, bizarroïde. Il n'a pas. George Martin a produit la plupart des bandes, mais pas tout, en fait. Mm-hmm. Parfois, ils arrivaient avec des bandes déjà enregistrées dans d'autres studios, quasiment en solo, tu vois. Et puis, te remixer tout ça, ils te foutaient. Ils revenaient dessus, ils retravaillaient. Enfin, ça a été un peu confus. Et puis, ça donne un album, quand même, qui dans son genre est assez unique et qui a eu beaucoup de succès, hein. 19 millions de copies aux États-Unis. Mmh. Et j'ai lu là qu'il y a une de ces copies qui s'est vendue à $25,000, je crois, sur eBay. C'était la numéro 005, car les premières versions, la première édition, étaient numérotées. T'avais The Beatles qui apparaissait là, et un numéro. Voilà. Et le numéro 005, c'est le premier numéro mis en vente, parce que les quatre premiers, c'était pour les Beatles.
D'accord.
Tu vois le truc? Ah, il y a un mec qui s'est... Il y a une enchère torride, quoi, pour cet album, ce double album numéroté 005. $25,000, quand même. On aura quelques anecdotes à raconter sur ce disque et les enregistrements. Et puis sur Dear Prudence, je sais pas si tu te rappelles de l'histoire. Le morceau est dédié à la sœur de Mia Farrow, en fait, qui s'appelait Prudence. Et qu'ils avaient rencontré chez le Maharishi, truc mûche, là. Parce que là-bas, il y avait les Beatles, il y avait Mia Farrow, il y avait sa sœur, il y avait Mike Love, il y avait Donovan, enfin, c'était toute une bande. Et dire Prudence, elle était allée là-bas pour méditer, pas pour fumer la drogue et faire la fête, hein. Elle était allée là-bas pour méditer, prendre des leçons de méditation avec le Maharishi. Donc, elle passait tout son temps dans sa piole. Et ils avaient des séances, là, je sais pas trop ce qu'ils foutaient, ils discutaient, ils philosophaient, et puis hop, après chacun rentrait chez soi, et elle rentrait dans sa piole pour méditer. Alors les autres, ils en avaient marre un peu, et puis ils allaient la voir, et Prudence, c'est toujours vivante et tout. Alors ils racontent plus tard que, oui, les Beatles, c'était gentil, je crois que c'était surtout Lennon et Harrison qui venaient la voir. Ils étaient gentils, ils venaient dans ma piole pour me jouer des morceaux et tout. Je savais qu'ils composaient, parce que je les entendais, ils étaient dans la piole à côté. Mais bon, moi, il me faisait chier, je voulais être toute seule, je voulais méditer. Donc, ce morceau lui est dédié. C'est un morceau de John Lennon, sur lequel il n'y a donc pas Ringo Starr non plus. C'est McCartney qui faisait les batteries, semble-t-il. Sur Back in USSR, McCartney fait la batterie, mais Harrison aussi, et Lennon aussi, ils ont mis plusieurs bouts de batterie ensemble. Sur ce morceau-là, je crois que c'est McCartney qui joue la batterie. Qui doit être assez discrète. Dear Prudence, donc le deuxième morceau de l'album blanc des Beatles. Il serait pas un peu rayé, mon double album blanc des Beatles?
J'ai peur, je crois pas que ça soit aussi long que ça, l'intro. Hein.
Excusez-moi, je reviens.
Il va falloir pousser un peu l'aiguille. Hein.
The sun is up, the sky is blue.
Dear Prudence, un des chefs-d'œuvre de cet album blanc.
Oui, mais finalement, un morceau qui rappelle assez le son Beatles du milieu des années 60 classique. Hein. C'est oui. Celui-là est plutôt cadré.
Oui, oui, oui.
Et la batterie pas si discrète, hein, à la fin, l'espèce de marche-là.
Voilà, au début, c'est du poum, poum, poum. Et après, c'est vrai qu'il se lâche un peu, l'ami McCartney. Bon, après, il a dû bricoler sans studio. Hein. Et il joue du picking Lennon, là. Il paraît que c'est Donovan qui lui avait appris à jouer de cette façon chez le Maharashi, là. Dear Prudence, allez, sors, va voir le soleil, viens avec nous jouer. Non, vous faites chier, je médite. Voilà, c'était, en gros, c'était le dialogue entre Prudence, je sais pas si ça s'appelait Faro, mais la sœur de Mia Faro en tout cas, et les Beatles. En mars 68, je crois qu'ils étaient là-bas en Inde. Attention, Obladi Oblada se rapproche. Hein. C'est pas le prochain, mais c'est le suivant.
Ah, oh, attends, on aura aussi Wild My Guitar, Jet Li Whips. Avec Eric Clapton.
Il y a un paquet de chefs-d'œuvre hein, pour un double album. Et puis il y a aussi quelques trucs plus expérimentaux. Ouais. Ou,
Oui, ça, c'est pour le dire élégamment.
On y est où?
Bien, eh bien, écoute, on va prendre des gens nettement moins connus que les Beatles. Et même nettement moins connus qu'Alice Cooper. Poco. Poco, tu sais, c'était certains des musiciens du Buffalo Springfield.
Californie.
Qui s'étaient accoquinés avec d'autres gens qui faisaient du country rock, totalement country rock. Et on va se les écouter en concert.
Alors, ils ont des morceaux un peu chiants des fois. Non alors, à mon goût.
Comment
Comme il fait celui-là, non.
Celui-là, il est court, tu vas voir, il est court, il est dynamique et tout.
De temps en temps, il se laisse aller un peu. Hein.
Et les paroles ont certainement fourni une inspiration à ton groupe préféré, Sylvain, tu vas voir.
Mon groupe préféré.
Oui. Donc, c'était enregistré en public à l'université de Duke,
Common
en Caroline
and Love Me, c'est ça
du Nord, je crois. Comment
Common and Love Me.
Eh oui, tu vas voir. Le morceau s'appelle Common.
C'est donc Poco. Je t'ai coupé. C'était enregistré où, tu disais ?
À l'université de Duke, en 1973.
Poco.
Come on, honey, love.
Eh ben, c'est pas impossible, oui. Je sais pas de quand date le morceau. Là, c'est live en 73, mais...
Oui, le morceau est sorti avant, voilà. 71, par là.
Et même l'intro, là, tu sais, ça peut rappeler certains trucs de Kiss. Bon, évidemment, Kiss, il faisait en beaucoup plus lourd, mais... le solo même m'a fait penser un petit peu à certains trucs d'Ace Frehley. Il y a un truc à creuser là.
Qui s'inspirant de Poco, tu vois, ça c'est on n'y croirait pas.
Ça serait étonnant, mais quand t'écoutes Wicked Lester, le premier groupe de Paul Stanley et Gene Simmons, t'aperçois qu'ils faisaient des trucs très variés en fait. Ils avaient des influences un peu folk, un peu pop, un peu. Ils mélangeaient un peu tout. Ils n'avaient pas trop leur voix encore.
On peut supposer qu'ils laissaient traîner leurs oreilles aussi. Quoi.
Et puis c'était ça c'est sûr. Puis ils ont fini par trouver le créneau. Alors là, après, bon, ils n'ont pas trop bougé. Mais à leur début, ça partait un peu dans tous les sens. Et je pense qu'ils écoutaient ce genre de trucs, ou entre autres, nos amis de Kiss. Voilà. Donc, écoutez pas le punk aussi. Alors,
c'est rigolo d'écouter Poco donc en public, parce que c'est beaucoup moins léché que les albums studio quand même, ou que l'album public officiel qui a dû être refait en studio probablement. On sent qu'ils chantent pas tout à fait juste, ils sont pas tout à fait en place.
Voilà, ça
part un peu dans tous les sens.
Justement, c'est plus énergique.
Ouais, c'est plus rigolo. Voilà.
Poco, c'est un peu, il y a de très bons moments, c'est un peu inégal à mon goût. Des fois, il y a des longueurs.
Oui,
quoi.
Oui, et puis assez vite quand même, à partir du 4e-5e album, c'est devenu assez une formule. Puis bon, les mecs qui étaient bons dans le groupe au début se sont barrés, ils ont été remplacés par d'autres progressivement. Au bout d'un moment, c'est devenu insupportable.
Voilà. C'est comme, je sais pas moi, Deep Purple et des tas d'autres. J'ai trop de... etc. Eh bien, maintenant, on va planer un petit peu. Hein, avec un peu de psychédélisme moderne, un album qui vient de sortir.
Alors ça va être encore Endless Boogie ?
Non. Non. Mais c'est le même copain qui m'avait envoyé le lien pour Endless Boogie, qui m'a envoyé aussi un lien pour ce groupe qui s'appelle Wooden Ships. Ships écrit S-H-J-I-P-S. Ships.
Dis donc, c'est marrant, J'ai vu de la pub pour ce truc, ça a l'air connu. Enfin,
ça a l'air
dans
connu.
Une boutique de disques, il y avait un grand machin qui disait Wooden Ships, et je me suis dit, tiens, des fans de Crosby, Stills & Nash.
Pas trop, a priori. C'est pas vraiment violent, c'est du psychédélisme. Ça se rapproche un peu du stoner psyché, genre Nebula, mais en moins velu quand même. Par moments, ça rappelle aussi Suicide, enfin, ou tout au moins Alan Vega, c'est-à-dire, tu sais, c'est un morceau très très répétitif. Et c'est plutôt pas mal quand même. Alors, il y a de la guitare, hein, ça envoie, mais ça plane surtout. Hein. Il y a quelques morceaux longs sur ce disque, c'est le troisième. C'est un groupe qui a été formé en 2006, à San Francisco. Et là, c'est leur troisième album qui est paru cette année, il s'appelle West. Il y a des bons moments quand même. Voilà, hein. Ça s'appelle, c'est tout un programme, Flight. Les Wooden Ships.
that's the sign-off sound from Deep Purple.
Ah, ils ont rendu la mèche.
Comme tu le vois, c'était tiré des archives de la BBC, mais en fait, non, pas des archives de la BBC. C'est sur un disque qui essaie de compiler tout ce qui a pu être sauvé des sessions de la BBC de Deep Purple. Quand je dis sauvé, c'est que tu sais que la BBC avait l'habitude d'économiser de la bande magnétique en réenregistrant sur les bandes originales des sessions qu'ils enregistraient. Mmh. Et donc, la plupart des groupes qui ont fait des trucs enregistrés en direct dans les studios de la BBC, et il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes, des tas de trucs absolument légendaires, ont été effacés par les ingénieurs du son de la BBC au bout de quelques mois. Et les seules traces qui survivaient, c'était ce que la BBC mettait sur des disques qui pressaient pour les envoyer aux stations de radio qui étaient leurs abonnés dans les fragments de l'Empire britannique qui existaient dans le monde entier. Et d'ailleurs, donc c'était ce qu'on appelait le Transcription Service, et donc ils pouvaient passer des morceaux de trucs à la BBC avec des disques vinyles là qu'ils recevaient par la poste au fin fond de l'Inde ou du Mozambique, non pas du Mozambique, du Kenya, hein, voilà, des choses comme ça. Et après, au bout d'un an, ils étaient censés les renvoyer à la station mère pour qu'ils soient détruits.
Ah, long.
Mais il en est quand même resté.
Il y en a qui ont piqué.
Il en est quand même resté, bien sûr. Et c'est grâce à ça que, et à quelques autres sources, plus ou moins officielles, parce que parfois les ingénieurs du son se gardaient des copies pour eux parce que ça leur plaisait et qu'ils voulaient les réécouter, que a été récupéré, je sais pas, les trois quarts des sessions enregistrées par Deep Purple entre 1968 et 1970 pour la BBC. Et c'est sorti sur un double CD, tu sais. Je suis un drogué, je ne peux pas me passer.
Ça.
Ce n'est que mon 35e ou mon 40e CD de Deep Purple, j'en ai pas encore assez.
Non, mais c'est irrécupérable, hein. Il n'y a plus rien à faire.
Et alors, le morceau qu'on a écouté, c'est encore pire. Il n'en restait aucune version officielle, et c'est un fan qui l'avait enregistré en mettant le micro sur magnétophone devant son poste de radio. Donc vous avez pu écouter pendant 2 minutes un son qui vous rappelait les transistors des années 60 et encore. On a un trop bon son ici, trop souvent. Il faut se remettre un peu, tu vois, le vieux bruit analogue dans la tête. Mais il y avait là-dessus un son de guitare totalement excité de Ritchie Blackmore pendant 3 secondes.
On peut faire ça avec autre chose que du Purple. Enfin bon. Non, mais je dis ça, mais je sais que c'est sans espoir.
Oui, il n'y a que 25 autres morceaux sur ce disque.
Oh, bah écoute, s'ils sont tous aussi courts, ça va, hein. Mais j'en doute.
Et non.
Et voilà. Bon, eh ben, on va vite passer à autre chose. Donc, on va s'écouter un petit peu de groove, quand même, avec les Temptations. En 72, l'album All Directions. Pas mal. Il y a quand même ce gros tube qui s'appelle Papa Was a Rolling Stone, là-dessus.
Ça, c'est la version d'origine.
Je sais pas trop, parce qu'ils ont souvent réenregistré, repris. C'est des morceaux écrits par Norman Whitfield.
Je sais que Rare Earth l'a fait, il me semble que ça devait être avant. Et donc,
C'est des morceaux de Norman Whitfield, des Barrett Strong, qu'il refourguait à tous les groupes Motown. Alors donc, c'est peut-être pas la première version de ce morceau. C'est-à-dire qu'il a sûrement été enregistré par d'autres gars à la Motown. Mais disons que la version des Temptations, c'est la plus célèbre, qu'on va dire. C'est resté beaucoup la tribu aux Temptations, ce morceau. Mais c'est vrai qu'il a probablement été enregistré par d'autres groupes avant. Comme I Heard It Through the Grapevine. Oula. Attends.
I Heard It Through the Grapevine.
Voilà. On en parlait jeudi à Digit. Ouais. Dans l'émission de Digit. Excellente émission rock'n'roll. Le jeudi soir.
Smokey Robinson.
Smokey Robinson.
Je sais parce que j'ai entendu dire à Digit.
Eh ben oui, tu vois. Et non pas Marvin Gaye, comme tout le monde le pense. Il y avait même Gladys Knight qui l'avait fait avant Marvin Gaye. Marvin Gaye a dû graver la 3e ou 4e version de ce morceau. Donc c'était comme ça que ça marchait chez Motown. C'était aussi un morceau signé Barry Switfield et Barrett Strong, hein, qui ont fait la paire pour les Temptations. Barrett Strong faisait surtout les paroles, Norman Whitfield, les arrangements, la musique. Et les Temptations chantaient ça de manière tellement magnifique avec les Funk Brothers derrière. C'est un bon disque, mais il y a quand même un peu trop de ballades à mon goût. C'est un peu l'inconvénient de certains disques des Temptations. Elles sont très belles, hein, mais quand on a 3 ou 4 d'affilée, là, c'est un morceau plutôt funky, comme son titre l'indique. Funky Music, Show 9 Turns Me On. Le morceau qui ouvre l'album All Directions des Temptations. We'll be right back. Alors, si vous voulez faire une thèse sur l'influence de Sly and the Family Stone sur le son des Temptations et les morceaux de Barents Whitfield, écrit par Barents Whitfield, Norman Whitfield, bien sûr, eh ben, vous pourrez utiliser ce morceau Funky Music Show 9 Turns Me On avec ce passage doo-wop à la fin qui était directement pompé sur Sly and the Family Stone. Mm-hmm. Norman Whitfield il a été totalement impressionné en fait. Par Sly and the Family Stone, et puis c'est lui qui a orienté ensuite le son de la Motown vers cette psychédélique soul. Il a utilisé toutes les ficelles en long, en large, en travers. Là, c'est déjà 72, donc ça fait un petit moment qu'il a tiré sur la corde, mais sur ce morceau, c'est encore efficace, je trouve. C'est un des très bons morceaux de l'album All Directions, donc des Temptations en 72. Je crois bien que l'heure est venue d'une
de nos rubriques.
Attention, c'est la rubrique Van Halen. Super, ça fait longtemps qu'on a pas écouté Van Halen. On va faire de la air guitare.
Si t'es pas sage, on va écouter du Metallica.
Ah
hein.
Bon, très bien. Non, j'ai rien dit. Oh, j'étais très fan de Metallica dans ma folle jeunesse. Et ouais, premier album.
J'ai jamais branché sur Metallica.
Premier album, Kill 'Em All. C'était quelque chose. Ouais. Jamais entendu un truc aussi méchant, aussi ténueux. Et puis le deuxième, déjà, il commence à faire des trucs un peu très pompiers, très. Et puis alors après, j'ai complètement lâché parce que c'est devenu abominable. Mais le premier album, Kill 'Em All. J'ai pas écouté ça depuis 30 ans. Ouais, j'exagère. 25 ans.
Non, parce pendant que combien? Je me rappelle quand les journaux commençaient à parler de Metallica.
Ça doit être 82, 83, un truc comme ça. Ouais. C'était bon. Attends, c'est presque 30 ans. Non, j'écoutais ça. Ça fait bien 20 ans, disons, que j'ai pas écouté Kill 'Em All de Metallica. Tu me donnes envie, tiens, tu vois. Mais je crois que c'est pas du tout le sujet de notre rubrique.
Patience.
Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Tu m'inquiètes là.
Eh oui.
Tu veux dire que Ray Davis a joué avec Metallica? Tu veux dire que Metallica a repris? Non? Quoi? Il hoche la tête.
Oui.
C'est pas vrai.
J'ai des preuves.
Oh putain.
Mais pour le moment, on va s'écouter les Kinks tout seul dans les années 70. En 79, sur l'album Low Budget, qui était un de ses albums, tu sais, assez larmoyant comme d'habitude, Ray Davies aimait bien écrire des chansons où il se moquait un peu de lui-même et où il se plaignait beaucoup de son sort, avec toujours un petit côté tongue-in-cheek, tu sais, un petit côté, tu sais pas trop, c'est du lard ou c'est du cochon. Alors, voilà une chanson qui a eu un certain succès, c'était les Kings faisant du disco, ça s'appelait Superman. Wow, c'est du disco assez humoristique aussi et assez rock. Et c'est l'histoire d'un gars qui voudrait bien pouvoir voler comme Superman. C'était pas tellement longtemps après la sortie du film, mais malheureusement, il sait même pas nager.
Kings, donc Superman. Quelle année t'as dit?
79. Ah, c'est, ou fin 78, je sais plus. Sur l'album Low Budget. C'est l'époque où le gros tube qui passait sur la radio américaine, c'était Heart of Glass.
Eh oui, j'ai pensé
qu'ils l'ont écouté.
C'est le même son de basse là derrière. Ça, c'est marrant.
Et le même côté disco rock, tu sais. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, le rythme du disco, mais avec la batterie très disco. Et puis là, bon, la guitare saturée quand même.
C'était l'année aussi de I Was Made for Loving You.
Mmh. Ah oui.
Qui s'est peut-être vendu encore plus. Hein. Bien. Ah oui, une petite reprise de Dear Prudence. Alors, il y en a eu quelques-unes. Hein. J'en ai écouté une par Hall. C'est le groupe de.
De Courtney Love.
Courtney Love, mais c'est abominable, enfin mon goût.
Celle-là. Dear Prudence, merde, mais j'avais une reprise de Dear Prudence.
Ah, c'est possible, j'ai lu beaucoup.
Oui, j'ai pas réfléchi. Mais je l'amènerai la semaine prochaine.
D'accord. Mais écoute, celle-là, ça va servir de blind test. Essayer de reconnaître qui chante cette version. C'est une fille aussi. Mais qui? Haha.
Thank you.
Prudence, c'était par Siouxsie and the Banshees, en 83, je crois, sur l'album Yéna. Une belle version, je trouve, ma foi, psychédélique à souhait, de Dear Prudence des Beatles, dont on a écouté l'original, bien sûr, puisque c'est l'album blanc, notre album classique du moment. Et ben, dernière ligne droite, là, hein.
Et ouais, ben écoute, t'as
un jingle.
Une cassette à nous passer, un jingle.
D'accord. C'est parti.
Un chanteur des sonnettes fait pour divertir les passants
et les fainéants.
As l'open se brandis.
Oui, bon. Tu as laissé passer le jingle aujourd'hui.
C'est lui qui a craqué. Ah ben, tu vois, je t'ai dit que t'es trop long ton jingle. Là, j'ai rien dit, j'ai rien fait, je l'ai passé et tout. Même pas de blague, j'ai pas parlé, rien du tout. J'ai pas coupé, j'ai pas fait semblant de me tromper de bouton. Mais c'est toi qui craques, hein, au bout d'un moment.
Ah, c'était pour ça. J'étais étonné.
Ah, parce qu'il est pas fini. Hein.
Oui, c'est sûr. Comme mon magnétophone est en panne depuis des années.
Pardon ?
Comme mon magnétophone est en panne depuis des années, je risque pas de faire un nouveau jingle d'ici.
Bon. Ah, les magnétophones, ça devient rare. Hein.
Ouais.
Voilà, donc la rubrique fromage de chèvre des bébés dinosaures.
Bien. Bah, écoute, où est-ce qu'on en est ? Jorma Kokkonen. Jorma Kokkonen, guitariste de Jefferson Airplane, puis de Hot Tuna. Grand amateur d'Americana, de vieux blues et de choses comme ça, a fait un album à Nashville, plutôt country, enfin country blues, hein, qui s'appelle Blue Country Heart, en 2002. Et puis voilà, je suis tombé dessus par hasard. Et on va s'écouter un morceau de cet album qui s'appelle Blue Railroad Train. Une reprise, bien sûr.
Going down the railroad track makes me feel so doggone blue. Listen to that old smokestack. Come back again, let me hear the whistle blow. Taking the sun and leaving the rain, and I hate to see you go. Let me ramble down the line. Blue railroad train, leave me here alone. Treat me good, treat me bad, making me think of home. states around. Blue railroad train, a good old pal to me. You take me where I want to go, and the transportation's free.
Voilà, Yorma Kokonen, bon, ça n'a pas trop changé hein, finalement. C'était en 2002, ça ?
2002, oui, oui. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux hein. Il a les mêmes goûts, mais un peu plus country sur cet album. Donc, mais enfin, ça reste du blues quand même, quelque part.
Bon, ben voilà, hein, il est temps de se rentrer.
Et ouais. Bon, alors on envoie le jingle de fin, on dit au revoir aux auditeurs et tout comme ça ?
Bah oui, oui, oui. Non, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude.
Attends,
il faut rappeler.
J'ai l'impression qu'on est en train de shorter quelque chose.
Je sais pas. On a oublié de rappeler donc qu'il y a le Digit, l'émission Furieusement Rock'n'Roll, tous les jeudis de 21h30, je crois, au moins minuit.
On a oublié de rappeler que vous auriez pu nous écouter en rediffusion, mais là c'est fichu parce que la rediffusion dure 80 minutes, a dépassé largement.
Voilà.
Mais la rediffusion a lieu tous les lundis de 15h30 à 17h.
Sans la rubrique fromage de chèvre, hein, parce qu'elle est souvent à la fin.
Et ouais. Mmh.
Et sinon, il y a le podcast sur le site du fanzine Digit, digitfanzine.com. Vous pouvez podcaster les bébés dinosaures et Digit aussi, si vous n'avez pas le temps d'écouter en direct. Et si vraiment vous en avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein, c'est surtout les bébés dinosaures. Hein, enfin bon, surtout si vous nous écoutez en direct, là, c'est les gens à qui on s'adresse. Ouais. Et en plus, vous podcastez pour réécouter. Alors là, les gars, bravo, bravo. Hein, là,
Qu'est-ce que j'ai entendu dire cette semaine que Digit était presque aussi bon que le bébé dinosaure.
Ah,
il y a
oui,
des gens
oui,
qui sont généreux.
On nous a dit ça. C'est Julien qui va être content.
Bon.
Voilà. Bah écoute, j'en ai une. Hein. Bon,
allez,
j'en
vas-y.
Ai une, mais elle est totalement nulle.
La mienne est totalement négative. Je te rassure.
Peut-être mieux que je les amène d'abord, puis après peut-être il faudra qu'on s'enfuit quand même. Je la dédie d'abord à Olivier, un collègue, là, parce que il écoute les bébinosaures pour les blagues en fait. Il y a des pervers comme ça.
Il y a de la patience.
Et ça c'est sûr. Et donc celle-là il pourra la raconter à ses collègues demain matin. Et puis à notre ami Jean-Saint-Pierre qui nous envoie des tas de blagues, mais maintenant qu'il les envoie à toi aussi, tu comprends, j'ai moins envie de les raconter parce que tu les connais déjà, alors c'est pas pareil, parce que moi ce qui me plaît dans les blagues, c'est pas tellement d'entendre les éclats de rire des auditeurs qui passent à travers les micros, n'est-ce pas, de par télépathie, mais c'est de voir la tronche de Tommy Boy, alors ça c'est un... Mais si tu la connais déjà la blague, c'est moins marrant. Donc il faudrait que Jean-Saint-Pierre m'envoie des blagues et te les envoie à toi séparément, tu vois, alors ça demande du boulot. Et donc, c'est un reste du spécial aveugle qu'on avait fait. Là. Elle a le mérite d'être courte, hein, je te rassure. C'est un aveugle qui se promène et qui passe devant une poissonnerie. Alors, il s'arrête, il renifle, et puis il fait un grand sourire. Il dit « Salut les filles !»
Ouais. Bon, allez, je vais t'en faire une de Jean-Saint-Pierre. De toute façon, quand t'écoutes les blagues, ce qui te fait rire, c'est aussi de regarder la tête. Alors, ça change rien que tu connaisses la blague. Tu vois, tu rigoles déjà. Je t'ai même pas dit à quelle c'était. Tu rigoles déjà. C'est pas la grosse mythe. C'est un type qui téléphone à un copain à lui qui est en Sibérie. Alors, il parle de la pluie et du beau temps. Le mec dit j'ai entendu dire qu'il faisait froid chez vous en Sibérie. Ouais, peut-être, ouais, il fait froid, bon, quoi. Si, j'ai entendu dire qu'il faisait moins 50. Oh non, moins 50, non, là, t'exagères. Moins 20, moins 25, peut-être, mais pas moins 50. Bah si, pourtant, ce matin, à la télé, j'ai bien vu, il disait, les relevés météo, moins 50, en Sibérie, là, dans ta ville, là, à Novosibirsk. Et l'autre mec dit, attends, mais je vois ce que tu veux dire. Tu voulais dire moins 50 dehors?
Bon, eh bien, on va s'enfuir avant que des commandos de Sibériens et du MLF ne surgissent.
Oh, c'est un peu donc... Sibérien, ça va, on peut se défendre. C'est 612 que c'est dur.
Oh là là, non, arrêtez-le, là, je sens que nos auditeurs risquent la crise cardiaque, là.
Excusez-moi, j'aurais pas dû oser.
Donc voilà, on s'en va.
Oui, parce que sinon,
on le jingle.
Des blagues de DSK.
Non, stop.
Ah non, pas du tout.
Faut que je trouve le bon bouton. Là, vite, je lui coupe la chic avant qu'il balance la grosse mythe. À la semaine prochaine.
Never really go.
No.
Never really go.
He's back.